Vous écoutez Indiscopie.
Indiscopie, c'est l'émission qui tend son micro à ceux derrière les jeux vidéo. Qui dit nouvelle rencontre dit nouveau podcast, épisode 6 d'Indiscopie. Nous sommes à Metz avec l'une des deux têtes du studio Flying Hawks Game. La vie et l'œuvre de Thomas Altenburger, c'est tout de suite. Cet homme, grand pourfendeur de concombres et maître de la pizza, s'est imposé dans le milieu du jeu vidéo indépendant.
Alors, je m'appelle Thomas Altenburger, aussi connu sous le sobriquet Mr. Helmut, qui a beaucoup de gens qui m'appellent comme ça, mine de rien. Et donc, je suis une des deux personnes qui forment le collectif d'auteurs qui s'appelle Flying Hawk Games.
Ah, c'est un collectif d'auteurs.
C'est un collectif d'auteurs. C'est le twist, c'est le plot twist de notre organisation qui est qu'on n'a pas de société. Et on est tous les deux artistes-auteurs et on bosse avec d'autres freelances. Voilà, société secrète, société qui n'en est pas une. Ouais. Mais ça va peut-être changer très bientôt.
Ah, ouais. Obligé.
Ouais, un peu presque obligé, ouais.
Bon, alors, obligé parce que trop de bénéfices ?
C'est ça.
Le jeu vidéo, pourquoi ? D'où ça vient ?
D'où ça vient ? Ben, c'est juste que j'étais biberonné au jeu vidéo, j'ai toujours voulu faire ça, et puis c'est mon dada, comme on dit. Ma famille me voyait un petit peu comme un extraterrestre parce que je restais dans ma chambre et puis j'étais complètement blême devant des jeux vidéo, donc... J'étais un petit peu... Enfin, tu sais, c'est le stéréotype du « Ah, cet enfant, il est bizarre. Il va devenir un espèce de sociopathe ou je sais pas. » Donc, les gens s'inquiétaient. Et puis, vu que quand j'étais petit, j'étais très timide et je parlais pas beaucoup. Donc ma famille, c'était très... ils avaient beaucoup de réserves. Et puis, au final, je pense être devenu un adulte à peu près correct. Et du coup, ben, ça fait contraste. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont changé leur avis sur moi-même par rapport à ça. J'ai un profil technique à la base, ouais. Après, dans la boîte qui n'en est pas une, je fais énormément de choses. J'ai d'abord tenté une fac de maths, parce que c'est comme ça qu'on m'a orienté, parce que je voulais faire de l'informatique. Et conseillère d'orientation m'a dit « Ah, toi, tu veux faire de l'informatique, il faut que tu ailles faire des maths. » Et alors que c'est archi faux. Et j'étais pas forcément bon en maths et je me suis retrouvé en fac de maths à apprendre théorie des anneaux, des machins, enfin à bouffer du 8 heures de maths par jour et j'étais en échec scolaire. j'ai fini mon année avec je crois 6 de moyenne et je séchais les cours parce que je rentrais à mon appart étudiant pour pouvoir faire du speedrunning de Super Metroid. Donc c'est à peu près, j'ai à peu près passé un an à speedrunner des jeux vidéo à la place. Et suite à quoi j'ai fait une IUT informatique parce que j'ai découvert qu'en fait il y avait des vrais parcours informatiques et comme on n'avait pas parlé, donc du coup j'ai fait une IUT informatique et c'est probablement les 2 ans les plus formateurs que j'ai eu de ma vie. J'ai trouvé ça vraiment super cool et l'IUT c'est ultra sous-estimé, c'est vraiment c'est super bien pour apprendre un métier quoi. Et à la sortie de ça, je suis allé faire une fac, donc j'ai fait licence master, qui m'a quasiment rien appris.
Une licence master en quoi ?
En informatique et en, comment dire, en design et utilisabilité des interfaces.
Wow.
Donc c'était de l'informatique, mais avec une coloration un petit peu psychologie cognitive. Pour tout ce qui est accessibilité, tout ce qu'aujourd'hui on appelle l'UI et l'UX. Voilà. Et donc j'ai fait ça. Et après quoi, j'ai fait une thèse. Donc j'ai un doctorat en UI et UX. Donc je l'ai faite à Luxembourg. Grosso modo, je suis parti bosser à Luxembourg et j'avais une opportunité dans un laboratoire de recherche de faire une thèse. Et à la base, mon gros kiff de ce que je voulais vraiment faire dans la vie à la base, c'était enseignant. Et j'adore enseigner. Et le truc, c'est qu'en informatique, pour pouvoir devenir enseignant, bah, y a pas d'autre porte que d'être enseignant-chercheur, en fait.
D'être doctorant et puis de...
Ouais, voilà. Parce que y a pas de CAPES en informatique, y a pas d'autres concours ou des trucs comme ça. Et puis, y a pas... C'est... en dehors du supérieur, c'est pas encore reconnu quoi, en tant que matière, et de, etc. Et du coup, ben, j'ai fait un doctorat qui a été l'expérience la plus horrible de ma vie, qui m'a valu une dépression.
3 ans de crunch ?
3 ans de crunch et de tyrannie d'une directrice qui, grosso modo, sa philosophie... Donc, elle comprenait pas mon sujet. Elle était, elle, dans un truc complètement ailleurs. Et elle était jeune, mais hyper old school dans sa manière d'encadrer, dans le sens où elle, c'était... moi, j'en ai chié pour faire ma thèse. Il n'y a pas de raison que toi, t'en chies pas. Donc ça lui paraissait pas normal si j'en chiais pas, en fait. Et ouais, elle me faisait faire refaire des trucs tout le temps, elle me faisait faire des trucs... Enfin, elle était hyper procédurière et elle prenait énormément son expérience comme étant...
L'expérience universelle.
Voilà, l'expérience universelle. Et surtout, elle se... Comment dire, elle mettait l'exigence qu'elle avait pour elle-même sur moi-même. Mmh. Et du coup, ben ouais, ça a pas collé, quoi. Ça n'a pas collé, j'ai fini ma thèse, j'ai continué un petit peu en tant que chercheur dans ce labo, dans ce labo-là, mais je suis parti parce que c'était trop politique. Et puis, le Luxembourg, c'est un petit pays, donc tu te retrouves très vite dans des situations assez politiques. Et que le concept... le milieu dans lequel j'étais, lui et l'UX en France, c'est un milieu de recherche qui est un peu un panier de crabes, dans le sens où il y a des recherches qui sont monopolisés par un ou deux labos. Et malgré le fait que la recherche, ça soit quelque chose de censé être assez ouvert et qui fonctionne avec des systèmes de peer reviewing quand tu fais des papiers, etc., les gens se foutent dans les pattes tout le temps, quoi. C'est...
T'as des guerres d'ego.
T'as des guerres d'ego, t'as des guerres de chapelle, parce que les gens, ils font en sorte de garder leur domaine de recherche pour eux, pour garder les financements. Donc toi, si tu arrives en tant qu'outsider et que tu commences à faire des papiers sur leur domaine de recherche, même si toi ça t'intéresse et tu as envie de faire quelque chose dessus, eh ben, j'ai déjà eu des gens qui sont venus me voir, des grands chercheurs, hein, qui m'ont dit « Pourquoi tu publies là-dedans? T'es une petite crotte. »
Sympathique.
Voilà. Et aussi, j'ai compris un truc qui est que j'avais pas besoin d'être chercheur pour pouvoir faire de l'enseignement, parce qu'à cette époque-là, je me suis rapproché des écoles privées type Epitech, etc. Et donc, j'ai commencé à faire de l'enseignement pour eux. Et c'était à titre professionnel, tu vois, c'était pas en titre en tant qu'enseignant, etc. Donc j'ai compris que je pouvais faire de l'enseignement sans être chercheur, même si la recherche, moi à la base, je voulais le faire.
Ça te plaisait,
ouais. Moi ça me plaisait, tu vois, je suis arrivé avec ma petite fleur dans le fusil et puis je me suis dit je vais faire avancer le savoir commun et puis je me suis rendu compte que c'était politique et que c'était assez sclérosé et que c'était chiant.
T'allais te fatiguer, ouais, là-dedans.
Ça servait à rien, franchement. Et quand tu vois que, grosso modo, moi, mon domaine de recherche, ce que j'ai fait en 4 ans, Google, ils l'ont fait en 2 mois, quoi.
C'est, oh, la frustration. Ouais.
Si tu veux, moi, je bossais sur tout ce qui était interface intelligente, du type ce que Google Now fait aujourd'hui. Par exemple, le fait que Google, il capte que, par exemple, tous les matins, tu fais un chemin particulier. Donc il sait que tu le fais à telle et telle heure, donc il se dit « Ah, ça c'est sûrement le chemin que tu as pour aller au travail ». Grosso modo, après tu as un peu de machine learning et puis ton interface elle va s'adapter et puis elle va te dire le matin avant de partir, elle fait « Eh, attention, fais gaffe pour aller au travail, là il y a des bouchons, faudrait peut-être que tu passes par là ». Et à l'inverse, tu vois, si maintenant tous les vendredis soirs c'est ta fin de semaine et que tu vas au bar avec tes potes, ben pareil, Google il va te dire « Ah, là si tu veux sortir, fais attention, il y a un accident, machin et tout ».
D'accord, donc t'étais là-dessus en fait.
Ouais, et je bossais là-dessus, ouais. Et Google Now est sorti genre un an avant que je finisse ma thèse. Donc c'est des trucs comme ça. Donc tu te dis « Ouais, ok, ben moi je suis en train d'enculer des mouches, quoi ». Mais la logique que moi j'en tire, c'est qu'en fait, les grandes entreprises qui ont des moyens d'innover, et qui sont en fait dans le pratique, parce que la théorie c'est une chose, mais elle est complètement déconnectée de la réalité, et il y a vraiment des gens qui font des recherches de manière complètement déconnectée. Et c'est aussi un des reproches que moi j'avais par rapport à la recherche, qui était que c'est pas assez connecté avec la réalité des métiers. Et moi ça m'est arrivé une paire de fois d'aller dans des entretiens et de demander à des gens, je bossais avec des gens du secteur de la construction, et grosso modo je leur parlais de ces trackings d'itinéraires, etc. Et je parle avec un architecte, et l'architecte, il me fait « Alors, ton truc, c'est génial, mais jamais on l'utilisera dans l'architecture, pour la simple et bonne raison que moi, je suis architecte, et j'ai une responsabilité envers des chantiers que je mène. Et si, par exemple, je suis tracé et que les gens savent qu'à telle heure, tel jour, je suis passé devant un chantier dont je m'occupe, ou même un chantier dans lequel je ne m'occupe pas, et que j'ai vu une malfaçon mais que je ne l'ai pas reporté, et ben c'est pour ma pomme. Et puis, pour plein de raisons comme ça. Et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'au final, les gens qui font de la recherche, même dans le secteur du bâtiment, et ils sont déconnectés par rapport à la réalité de comment les métiers sont vraiment exercés. En fait.
Bon, la recherche, tant pis.
La recherche, tant pis. Et puis, c'était une occasion de se dire, je bossais à Luxembourg, je me suis dit, je vais mettre du cash de côté en bossant à Luxembourg. Et puis je vais me lancer. Je vais faire du jeu vidéo parce que j'ai envie de faire du jeu vidéo. Et ça faisait un petit peu de temps j'en faisais déjà un petit peu. Donc, si tu veux, pendant mes études, déjà pendant le master, je faisais... Il y avait un truc génial qui a été créé par Microsoft, qui était le Creator Club. Et en fait, n'importe qui pouvait développer sur Xbox 360. C'est un peu comme chez Apple, tu payais une licence 100€ par an et tu avais un market alternatif où tu pouvais publier des apps. Et ils avaient un forum qui venait avec. Et en fait, t'as tous les créateurs qui discutaient entre eux. Et puis c'est là-dedans que moi j'ai commencé à bosser dans le jeu vidéo. J'ai commencé à avoir des petites piges au black ou des trucs comme ça. Et ça, c'était, on va dire, 5-6 ans avant que je commence à faire Flying Hog Games. Et directement après, je me suis assuré déjà un chômage. Donc je suis parti avec le chômage. Et avec aussi de l'argent de côté pour me dire, ok, là j'ai, on va dire, 2 ans devant moi de coussins financiers pour pouvoir essayer de lancer une activité. Quoi. Dans le mois qui a suivi, j'ai commencé à faire ça. Quoi.
Comment t'as fait justement? Tu t'es lancé d'abord tout seul? T'as rencontré... Florian, ou...
Florian, je le connaissais déjà d'avant, mais quand j'ai commencé Flying Hog Games, Florian n'était pas encore disponible parce qu'il était en train de finir son master. Donc lui, donc là c'était genre en janvier, et lui il finissait en juin. Et donc on savait qu'on avait envie de faire un truc ensemble, mais donc moi il fallait grosso modo, entre guillemets, que je m'occupe un peu jusqu'à mai-juin. Quoi. Et entre-temps, j'ai donc fait un premier jeu avec quelqu'un d'autre qui s'appelle François Ozy, et qui est quelqu'un que j'ai rencontré en Game Jam, et qui, lui, s'avérait être disponible pendant un mois, là, comme ça. Et puis on s'est dit, c'est une bonne opportunité, parce que si on a envie de se lancer tous les deux dans le jeu vidéo, ça peut nous permettre de faire un crash test. Donc là, on s'est dit, viens, on prend un mois pour faire un jeu vidéo, et on le publie, et on voit ce que ça donne, et au moins pour voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'il faut pour faire un jeu vidéo. Donc on a fait de la com, on a fait de la relation presse, etc. pour voir comment on se lançait. Et c'est ce qui nous a mis le pied à l'étrier. Donc on a fait un premier jeu mobile qui s'appelle Dead End. On a peut-être fait 200€ avec, un truc comme ça. Mais c'était hyper instructif. Et ça m'a permis moi-même de savoir où étaient mes limites, en fait. De ce que je voulais faire et de ce que moi, en termes de compétences, je ne sais pas faire. Et que il faut que ce soit qu'on cherche ailleurs, soit qu'on s'associe avec d'autres personnes. Marketing, communication, relations presse. C'est pas forcément que c'est des limites, mais c'est surtout qu'en fait, ça prend du temps. Et c'est du temps que peut-être que moi j'ai pas forcément envie d'investir à titre personnel, mais c'était nécessaire en fait. Si tu veux, ça nous a bien appris ça, et puis ça nous a tout de suite appris que un jeu se vend pas de lui-même, et faire un jeu, même s'il est bon, il se vend pas tout seul,
surtout maintenant.
Ouais, aujourd'hui encore plus d'ailleurs. Ouais. Mm-hmm. Ouais.
Donc Dead End,
donc on fait un jeu avec François, et grosso modo on l'a fait pendant un mois, et pendant un mois François est venu vivre chez moi. Donc, c'était vraiment mode garage, quoi. Ça s'est bien passé.
Ouais, j'allais dire sans vous entretuer.
Non, sans nous entretuer, c'était plutôt cool. Quand les un mois étaient finis, on s'est dit, ouais, c'est le bon moment d'arrêter. mais on s'est pas foutu sur la gueule. On s'est plutôt bien entendu. Ça s'est bien passé. On a fait un jeu. On est content d'avoir fait un jeu. Et après, j'ai commencé à bosser avec Florian directement sur ce qui donnera plus tard New Revoider. Donc là, on est début 2014.
Donc c'est à ce moment-là que Neurovoider va commencer.
Le projet a commencé à, ouais, vers avril. Avril-mai. Le jeu est sorti en 2016, en septembre 2016.
Ça va.
Ouais, ça nous a pris 2 ans.
Oh, ça va, ouais. Franchement. Enfin, je connais des indépendants qui mettent bien plus de temps pour sortir un jeu.
Non, non, nous, on peut pas. Non, c'est pas possible. C'est juste que nous, de toute façon, on avait des contraintes financières, on pouvait pas faire autrement, quoi. Ni Florian, ni moi, sommes dans un contexte où on peut se permettre ce genre de choses. Enfin, je veux dire, on vit pas chez nos parents.
Ouais.
On est tous les deux sur nos économies, donc nous, c'était vraiment, on lançait, il fallait que ça marche, quoi.
Comment s'est passé le développement du jeu
Très cool dans le sens où on était content de ce qu'on faisait, on avait des bons retours par rapport aux joueurs, et puis on développe le jeu avec les joueurs, enfin pas avec les joueurs, c'est pas eux qui bossent avec nous.
Mais vous avez des retours.
Mais on a des retours, et on aime beaucoup bosser de cette manière-là. Le développement s'est bien passé, on avait, dès 2015, il me semble qu'un an avant la sortie du jeu, on avait commencé à le publier en alpha sur itch.io. Ça avait plutôt marché correctement d'ailleurs, c'était assez étonnant. Et suite à quoi, en fait, on a signé avec Plugin Digital pour l'éditer, en fait. Donc, il est sorti d'abord en Early Access, il me semble en avril 2016. Donc là, le jeu, il était genre à moitié fini, un truc comme ça. Et puis, on le vendait déjà. Ça avait pas marché de ouf, mais on se formalisait pas parce que de toute façon, nous, le jeu était pas encore fini. Puis pour nous, c'était pas encore la sortie, etc. Mm. Et en septembre, on finit le jeu, on sort le jeu, et là, c'était catastrophe. Et on avait vendu, 800 en un week-end, je crois. Ce qui, sur un lancement, n'est pas terrible du tout. Vraiment, comment dire, il y avait sûrement une partie de méconnaissance de notre part, et il y avait aussi une partie de méconnaissance de la part de l'éditeur, parce qu'ils étaient encore dans une phase où ils n'avaient pas les compétences pour le faire, et c'était encore une période où on avait un peu l'impression que les gens couraient autour du feu dans la pièce, quoi. Donc on était assez vénère, on avait assez mal pris ce lancement, et avec le recul, c'était plutôt de l'orgueil que de la colère dirigée sur des personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était que Plugin Digital, notre éditeur, ils nous ont dit écoutez, nous on croit quand même à ce projet là sur le long terme, on pense que vous allez pouvoir le rembourser. On aimerait que vous donniez quand même l'opportunité de voir venir. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont dit, écoutez, nous, on vous file une nouvelle avance pour que vous puissiez au moins vous retourner. Et si possible, essayer de faire au moins des portages consoles pour essayer de multiplier un petit peu les chances de voir comment ça peut venir. On a fait des portages consoles. Le jeu était d'abord sorti assez rapidement sur PS4 et Xbox One. Ça avait déjà mieux marché, donc ça nous permettait déjà d'un peu plus se rassurer. Et nous, on avait continué de faire du suivi sur le jeu, donc on n'avait pas lâché l'affaire, on a continué de faire des updates et de rajouter du contenu. Et ça a pris un petit peu plus. En septembre 2017, le jeu sort sur Switch. En termes de timing, on est vraiment bien tombé parce qu'on était encore dans les 6 premiers mois de la console. Et ça a bien marché. Mais déjà avant, en fait, le jeu avait sur le long terme déjà bien marché. En fait, c'est-à-dire que je crois que c'était une semaine avant que le jeu sorte sur Switch, on avait réussi à rembourser le jeu. Donc en fait, le jeu, il a mis un an à se rembourser, à coup d'updates, d'autres consoles, etc. Donc c'était assez laborieux, mais du coup, nous, ça nous avait déjà rassuré dans le fait que, ok, d'accord,
Au moins, on n'a pas perdu d'argent.
Au moins, on n'a pas perdu d'argent. Et on le sort sur Switch. Sur Switch, ça marche très bien. Donc la Switch, ça a tout de suite permis de faire rembourser le jeu deux fois. On est parti du jeu, il se lance pas bien, on en vend moins de 1000 sur le premier mois. Et aujourd'hui, le jeu, en termes de vente, il a dépassé les 100 000 ventes. Et en termes de joueurs, vu qu'on a eu des bundles et des trucs comme ça dedans, ça, on les compte pas dans les ventes régulières. On n'est pas loin de, on est pas loin des 400 000 joueurs. Ouais. Et donc, 4 ans plus tard, c'est impossible pour nous de dire que c'était pas... comment dire, que le projet, il a pas réussi, quoi. Il a, pour nous, c'est un peu notre enfant bâtard, parce que on sait qu'il est pas parfait.
Mais on l'aime quand
même. Et il a bien marché sur le long terme. Donc c'est sans Neurovoider, au final, il y aurait rien eu d'autre derrière.
C'est un peu votre diesel, quoi. Il a fallu le faire chauffer un petit
moment.
Ouais,
carrément, carrément. Ouais,
et
ouais,
puis
ouais.
Quand c'est parti, quoi.
Franchement, nous, quand on a là en fin d'année dernière, là, fin 2019, quand on a fait les chiffres, on a un gros tableau Excel avec toutes les ventes dedans. Et puis on regarde, et puis ah putain, ça a dépassé 100 000. Et là, on se dit ah ouais, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est enfin, c'était inconcevable.
Ça doit soulager, non?
Bah, ça, c'est assez ouf, en fait, parce que c'est très symbolique comme chiffre, en fait. Et c'est là où tu te dis, tu vois, c'est pendant plusieurs années, on s'est dit ouais, ce jeu, il va nulle part, il restera un peu anonyme, et même nous, ça nous servira pas forcément de carte de visite, etc. Et preuve est de constater que si. Et qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, quand on va se présenter pour x ou y raison sur des trucs, et que sur ta carte il y a écrit jeu vendu à 100 000 exemplaires, là tu prends un, bah tu recules un petit peu et tu te dis ah ouais quand même. Et puis je sais pas si ça fait bizarre, tu te rends pas compte en fait du moment où la transition a eu lieu, en fait.
Parce que ça a été progressif. Finalement.
Ah oui, ça a été
vous
complètement productif. Bah, non, on l'a pas venu. Bah, là, 100 000, c'est au bout de 4 ans. Hein. Donc, mais ça allait hyper vite, en fait. Parce que, genre, il y a un an, on était à 60 000, 70 000. Donc, et en fait, le jeu, il s'est... En 2018, je crois, ou en 2019, c'est l'année où le jeu s'est le plus vendu. C'est assez bizarre, en fait, parce que tu te dis que le jeu, il a fait plus de ventes plusieurs années après, en fait.
Après, il y a peut-être des questions de maturité de marché aussi. Hein. Les gens étaient peut-être pas...
Ouais, peut-être. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent. Et puis après, il y a aussi le fait que notre éditeur fait quand même son boulot. Et mine de rien, c'est eux qui ont fait tourner la baraque, quoi. C'est eux qui ont fait en sorte que ben, ces 100 000... Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas... Ouais, voilà. Et donc ça, tu vois, c'est là où je disais qu'au début, le fait que Neurovoider n'ait pas marché, que c'était orgueilleux de notre part, qui est que, ben, en fait, mine de rien, OK, Plugin Digital, à l'époque, n'avait pas forcément les bonnes compétences pour faire des bons lancements, mais il faut quand même le reconnaître que ce ne sont absolument pas des gens malveillants et qu'ils ont quand même des compétences et ils ont des leviers pour quand même faire avancer les choses, même après un départ mitigé, quoi. C'est assez surprenant, en fait, de comment dire, quand tu cites ton jeu et qu'une personne le reconnaît, alors que toi tu t'attends pas, ben ça fait très mais c'est sûr.
Après Neurovoider, petite pause, pas petite pause.
Pseudo-pause, ouais. Pseudo-pause. Après Neurovoider, on était quand même hyper séchés. C'était intense. Intense, ça dépend. C'est très intense émotionnellement parlant. Parce que avec Florian, on n'a jamais fait de crunch. Pour la simple et bonne raison qu'on peut pas se le permettre, parce qu'on a tous on a nos vies perso à côté. Donc lui il a sa vie de famille, etc. Et moi il faut que je m'occupe de mon chat, donc c'est important aussi. Et mais grosso modo, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous on a très vite établi des règles qui sont après 19h, pas 19h, après 18h,
c'est plus l'heure.
Voilà, donc on a très rarement bossé, je crois qu'on n'a jamais bossé plus loin que 19h. On a peut-être bossé une ou deux fois dans un week-end, mais c'était toujours à la cool, quoi.
Après, si tu commences à 4h du matin, ça compte pas, hein.
Ouais. non. Nous, on arrive au bureau entre 8h30 et 9h. Ça dépend. Florian et moi, on est un petit peu décalés. C'est-à-dire, Florian, il arrive à 8h30 parce qu'il se lève plus tôt, parce que ses enfants se lèvent plus tôt. Et moi, j'arrive un petit peu après, genre vers 9h, 9h30. Et lui, il part plus tôt et moi, je pars un peu plus tard. Mais grosso modo, on compte pas nos heures. Je pense qu'en termes de rythme, on doit être à quelque chose comme 40, 42 heures par semaine. Mais c'est pas non plus ouf, quoi. Moi j'ai bossé à Luxembourg. À Luxembourg, le taux horaire, il est de 40 heures. Donc, en revenant en France, où je bossais 40-42 heures et que j'avais plus 3 heures de transport par jour, c'était une nouvelle vie, quoi.
Mais après, donc, alors, t'as les heures que tu bosses comme ça, effectives, mais t'as toutes les heures que tu bosses dans ta tête aussi. Enfin, j'imagine que tu t'arrêtes jamais vraiment de penser.
Ouais, mais après, c'est...
T'arrives à faire la part des choses ?
On fait la part des choses et de toute façon, enfin moi en tout cas à titre personnel, souvent je me dis, je rentre chez moi le soir et je me dis, je vais peut-être, j'ai un petit problème là qui me chiffonne, j'ai peut-être essayé d'y réfléchir un petit peu. Et au final, je rentre chez moi, je lance Netflix et puis je fous plus rien, quoi. Donc du coup, après Neurovoider, on était très fatigué, mais surtout émotionnellement. Là où je me suis rendu compte que le lancement de Neurovoider, c'était vraiment pas ouf. C'est la seule fois où j'ai vu Florian tirer la gueule. Ça nous a quand même bien foutu, ça nous a foutu un peu une claque dans la gueule.
Ça devait être de sacrées montagnes russes, quoi.
Ah ouais, non, mais complètement. Non, mais le jeu vidéo, c'est des montagnes russes, c'est horrible. C'est horrible même encore aujourd'hui. Hein. C'est le pire truc, en fait. Même quand ça se passe bien, émotionnellement, c'est hyper chaud, quoi. On était bien séchés, et puis on s'est dit... On se sentait pas de se dire, viens, on réattaque tout de suite un projet de 2 ou 3 ans, quoi. Donc on s'est dit, ouais, non, faut qu'on souffle. Allez, viens, on fait un petit truc. On se fait un petit jeu en un mois. Et puis en plus, on était un petit peu entre deux trucs. On cherchait encore à essayer de réfléchir à comment on allait financer la suite. Donc en attendant de voir comment on allait faire, on prenait des commandes. Donc moi, j'ai bossé pour The Pixel Hunt sur Enterrement Mon Amour. Et donc j'ai bossé avec eux, j'ai fait le pompier sur leur projet parce qu'ils avaient des problèmes en fin de prod. Je suis arrivé en renfort et on a sorti le jeu ensemble. Et puis après, par la suite, ils m'ont rappelé pour pouvoir faire le portage Switch. Et donc j'ai fait le portage Switch du jeu derrière, quoi. Et Florian, lui, il a bossé pour Ankama. Il a fait des graphes pour des jeux mobiles chez Ankama. Ça nous a fait respirer, ça nous a fait faire un peu autre chose, et puis ça nous a surtout donné du temps pour réfléchir à la suite. Et en même temps qu'on faisait un petit peu tout ça, on a refait un petit jeu qui s'appelle Boo Greedy Kid, qui grosso modo est un jeu qui...
Tu fais peur aux grand-mères.
Voilà, tu fais peur aux grand-mères. C'est un truc, c'est un jeu complètement débile, et on avait besoin de faire un truc débile, en fait.
Ouais, mais moi, ça m'a beaucoup fait rire.
Ouais. Et en fait, c'est un jeu à la base de Game Jam que Florian avait fait en Game Jam. J'avais pas participé avec lui. Et donc, du coup, on s'était réunis avec les gens avec qui il avait fait le jeu en Game Jam. On a fait un contrat tous ensemble pour dire, OK, nous, on va reprendre le jeu à deux. On va commercialement le publier. Vous avez bossé sur le projet de Game Jam avec Florian. Donc, on vous fait un contrat pour quand même être clean ensemble. Et puis, si le jeu marche, vous avez des royalties sur le concept ou des trucs comme ça, quoi. Et c'est un jeu qu'on a fait en 1 ou 2 mois aussi. On a refait entièrement le jeu de Game Jam. On l'a fait en 1 ou 2 mois et on l'a sorti de manière complètement anonyme. Parce que nous, l'objectif, c'était plus de souffler que de faire quelque chose qui soit éventuellement rentable ou un truc comme ça. Donc on avait zéro enjeu dessus. Donc on l'a sorti, on a mis, je crois, 1000 euros de communication dedans, ce qui est rien. Et il a fait un flop. Je sais plus. Là, le jeu, là, il est sorti depuis 2 ans. On en a peut-être vendu 500, un truc comme ça.
Ah bon, c'est tout?
Ouais.
Il y a moi dedans.
Ah bah c'est cool, je te remercie.
C'est, moi j'ai vraiment passé de bonnes soirées.
Ah mais il est cool,
moi,
bah, il dure une petite heure, tu peux le torcher en une heure, c'est sympa. Il vaut je sais plus 3 balles, un truc comme ça. Donc,
Et je le répète, achetez les jeux des développeurs indépendants. Il faut qu'ils mangent.
Oui, c'est vrai. Ouais, mais non, nous ça nous a fait du bien au moral, tu vois. On essaie d'être prudent par rapport à ce qu'on met dans des jeux. Enfin, je veux dire, dans le sens par rapport aux stéréotypes, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, on essaie pas trop d'alimenter ça. Sur Book Greedy Kid, par contre, on a pété un câble. On s'est dit, ouais, viens, on a besoin de souffler. On se dit, allez, on se permet une connerie, quoi.
Ça va, c'est pas.
Ouais, y a des trucs, on s'est censuré, hein.
Ah ouais,
il y a des trucs, il y a un truc, l'animation Florian l'avait faite, on l'avait intégrée dans le jeu mais on l'a enlevée, donc là tu peux montrer tes fesses aux personnes, mais on avait aussi l'hélicobite.
Pourquoi vous l'avez enlevé?
On l'a enlevé non. Parce qu'on s'était dit que c'était pas très bien de faire un gamin de 6 ans qui faisait un hélicobite en fait.
Oui, vu comme ça. Ouais.
Bah après on a fait des conneries, enfin la fin du jeu, il y a Trump dedans, donc c'est n'importe quoi. Et ouais, enfin on a essayé de faire une pseudo morale. On a essayé de faire une pseudo morale vraiment rapiécée à l'arrache, quoi. Après, on a commencé à faire un nouveau projet, quoi.
Est-ce que je ne prononcerai pas son nom?
Alors, tu peux prendre le légume.
Ouais.
Et tu mets un S devant.
Scourge.
Bien.
Et après.
Bringer. Ouais.
Bringer, ça va. Bon, ça va. Scourge, Bringer.
Ouais.
Non, en vrai, ça va. Mais pourquoi Scourge?
Pourquoi Scourge?
Ouais. Ben, pourquoi Bringer?
Pourquoi Bringer? Ben, c'est juste, c'est la porteur du fléau.
Comment vous avez pensé ce nouveau projet-là?
Ça s'est surtout fait d'un point de vue méthode de travail, dans le sens où, donc sur Neurovoider, on avait eu ce qu'on appelle un développement ouvert. Le jeu, on l'a mis entre les mains des joueurs très très tôt, largement avant qu'il soit fini, et pour avoir des retours, pour pouvoir faire les choses de manière assez carrée par rapport à ce qu'on puisse nous dire sur le jeu. Et on ne voulait pas faire un jeu et le publier et qu'on voit que ça ne marche pas, quoi. Donc nous, c'était hyper important d'avoir des retours là-dessus. Donc développement ouvert, il y avait un système directement intégré au jeu où tu pouvais appuyer sur un bouton et tu avais une fenêtre qui venait, qui interrompait pas ta partie et qui te permettait en fait de nous envoyer des retours de manière anonyme. Et donc ça, des retours, on a eu plein. Enfin, je sais plus, on avait eu quelque chose comme 30 000 retours, un truc comme ça. Et ça nous avait beaucoup plu de bosser comme ça. Et on bossait de manière très itérative par rapport aux retours qu'on avait, etc. Donc, on avait bien aimé. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour le prochain? Parce qu'on s'est dit, on a bien aimé bosser comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer et pour faire encore plus? Donc, on s'est dit, on va communiquer sur comment on fait ce jeu depuis le début. C'est-à-dire avant même que ça soit une idée. Et on s'est aussi dit, on va aussi parler de budget. On va dire, qu'est-ce que c'est un budget? Comment il est consommé? Comment il est construit? Comment on se finance sur ce type de projet? Et du coup, on a créé une newsletter hebdomadaire où toutes les semaines, on dit qu'est-ce qu'on a fait? Sur quoi on a bossé? Combien on a dépensé? Combien on a éventuellement gagné? Et comment on construit le jeu, quoi. We'll be right back. début, on savait pas ce qu'on allait faire, quoi. Ah non, du tout. Non, du tout. Nous, on a une méthode de travail qui est... Si tu veux, dans faire un jeu vidéo, t'as généralement deux approches. T'as une approche qui est dirigée par l'univers. Donc les gens vont d'abord créer l'univers du jeu et ils vont ensuite établir un gameplay par-dessus. Donc ça, c'est une façon de faire qui n'est pas la nôtre. L'autre, c'est en fait créer le jeu et après l'univers. Et qui est beaucoup moins répandu, mais qui nous s'y est beaucoup plus. On se sent beaucoup plus à l'aise de cette manière-là. Donc on a commencé à prototyper du gameplay. On savait qu'on voulait vaguement faire un jeu d'action de nouveau. Et en fait, on avait besoin... En fait, Neurovoider, c'est un jeu qui est bien mais pas top. Dans le sens où il y a un public, hein, y a des gens qui ont beaucoup aimé le jeu, ça c'est super cool. Mais nous, on lui connaît des défauts.
Vous aviez des frustrations.
Et on avait des frustrations. On avait des frustrations par rapport au fait que dans Neurovoider, on n'a pas pu exactement faire ce qu'on voulait vraiment faire. On s'est aussi dit que on n'a pas encore fait nos preuves. On savait qu'on était capable de faire mieux et on avait besoin de faire mieux pour autant se le prouver à nous-mêmes et aussi pour prouver aux joueurs et au monde que on était capable de mieux. Et donc du coup, on a un peu fait une liste de tous les points sur lesquels il fallait qu'on améliore si on faisait un nouveau jeu.
Vous aviez quel genre de points ?
Les boss sont pourris. Donc la difficulté était mal gérée. Donc tu pouvais autant avoir une bonne expérience que de te faire défoncer au bout d'une minute. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels on savait qu'il fallait qu'on soit vraiment prudent. Et après, ben, en fait, on savait, ça nous orientait pas forcément non plus vers quel genre de jeu on allait faire. Donc nous, la méthode de travail qu'on a, c'est que quand on commence à réfléchir à un nouveau jeu, on fait deux listes différentes. On fait une liste de trucs qu'on aimerait bien essayer ou éventuellement voir dans d'autres jeux, ou qu'on aime bien dans d'autres jeux. Et à côté de ça, on fait une liste de trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et dans cette liste, il y avait jeux de combat, parce que les jeux de combat, c'est hyper compliqué à faire. Enfin, c'est de la minutie, quoi. Il faut vraiment que ça soit réglé ultra bien pour que ça marche. Et ça, on se sentait pas de le faire. On se sentait pas d'avoir ce niveau d'exigence, en fait, qui pour nous était vraiment très très haut. Et il y avait jeux de course, parce que...
C'est pas votre cam.
Ouais, c'est pas notre cam. Et il y avait platformer. Parce que platformer, pareil, en fait, c'est mine de rien, ça paraît simple d'apparence, mais en fait, c'est blindé de tout petits trucs, de détails, de contrôle, de tout petits trucs, de réglages, de gruges. C'est hyper, hyper compliqué. Et quand on voyait le niveau d'exigence qu'il y avait actuellement, enfin tu vois, t'avais des jeux comme Dead Cells, Hollow Knight, etc., qui étaient derrière nous. Et donc du coup, on se sentait pas forcément légitime pour faire ça. Et donc du coup, on commence à prototyper. Quand on prototype, on prend des trucs de la liste qu'on aime bien. Donc on commence à faire des trucs et puis on se rend compte, on est un peu en train de refaire la même chose, quoi. Donc et généralement, quand on voit qu'on tourne en rond, ben, on prend volontairement un élément de la liste qu'on n'aime pas pour la mettre dans ce qu'on doit faire pour briser le cercle vicieux de la créativité, en fait. Mmh. Parce que la créativité...
Quand t'es trop à l'aise dans quelque chose, tu crées pas.
Quand t'es trop à l'aise dans quelque chose, tu refais la même chose. Et c'est aussi une question d'habitude. Enfin, je veux dire, si tous les matins, tu prends le même bus, si tous les matins, à la même heure, tu prends ton café, si tous les matins, à la même heure, tu fais la même chose, la créativité, elle intervient pas à ce niveau-là, en fait. T'es ancré dans tes habitudes et t'arrives pas à créer de la sérendipité. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, ben, écoute, on prend des trucs qu'on aime pas et on essaie de les faire.
Et donc, vous avez pris Platformer.
Et du coup, on a pris Platformer. Et au bout de deux semaines, on s'est rendu compte que peut-être on pouvait faire un jeu avec.
Comment tu décrirais, du coup, Scourgebringer ?
C'est un platformer roguelike, très rapide, nerveux, où il faut casser la gueule à des trucs, en pixel art.
Ce serait le mélange entre Céleste et Dead Cells.
Et c'est une comparaison plutôt flatteuse. Parce que c'est deux références, deux très bonnes références. On a commencé en mars, 1er mars 2018.
Et la fin?
Avant la fin de cette année, on espère.
Avant la fin 2020, alors.
Avant la fin 2020, ouais. Ouais, c'est raisonnable. Ouais, c'est presque 3 ans pour un projet qu'on voulait faire en 18 mois.
En combien?
En 18 mois.
Ah, oui. Bon, ça, c'est un peu le lot de tous les jeux indés, non, enfin...
Oui, bien sûr, ouais, tu prends tout prend au moins 6 mois dans la gueule, ouais, ça c'est sûr.
Alors, comment se passe le développement? Justement, il y a beaucoup de feedback des joueurs.
Beaucoup de feedback des joueurs, ouais. Ouais.
Vous avez lancé l'Early Access, du coup?
On a lancé l'Early Access. On a, je sais pas, 25 000 joueurs, un truc comme ça.
Ah oui! Et vous, sur cette masse de joueurs, il y en a beaucoup qui prennent le temps de faire des retours?
Ah oui, ouais, complètement, ouais. Après, nous, on a plein de trucs. On a le jeu qui trace aussi l'activité des joueurs. Mmh. Donc, on a des analytics par rapport à ce qu'ils font. Donc, on sait, par exemple, ben, où est-ce que les gens, ils galèrent, où est-ce que les gens, ils vont bien, quels objets ils choisissent, qu'est-ce qu'ils font comme action. Nous, ça nous permet derrière de faire des stats et d'équilibrer le jeu. Ce qui nous a pris énormément de temps, c'était fignoler les sensations, le game feel. Parce que justement, ce que nous, on voulait faire, c'était un platformer, mais vu qu'il y a quand même des références lourdes derrière nous, il fallait qu'on assure. Et on s'était aussi, et nous, quand on a commencé à faire le jeu, on était aussi, c'était toujours aussi une frustration par rapport à Neurovoider. Neurovoider, c'est un jeu qui, là sur Steam, il tourne à peu près à 80% d'évaluations positives. Et nous, on est un peu frustrés par rapport à ça. Et quand on a fait Skullbringer, on s'est dit, écoute, là, il faut qu'on fasse un jeu qui fasse plus de 90%.
Mais 80, c'est déjà pas mal, non?
80, c'est déjà pas mal, ouais, ah ouais. Mais on avait envie... Enfin, si tu veux, c'était comment dire...
T'as toujours envie de faire mieux, plus.
En fait, ce qu'il y a, c'est que... on savait qu'on était capable de mieux. Et on avait besoin de se le prouver à nous-mêmes, en fait. Et c'était peut-être con de se mettre ce niveau d'exigence sur nous, tu vois, mais on est content d'avoir réussi à le faire. Et pour nous, c'était hyper important. Enfin, je sais pas, est-ce que c'était une forme de... Est-ce qu'on avait besoin de reconnaissance? J'en sais rien. Peut-être. Mais on avait besoin de montrer. On voulait que, comment dire, qu'on soit reconnu pour notre juste valeur. Et on pensait que Neurovoider, c'était un projet qui nous permettait pas d'être évalué à notre juste valeur. C'était le projet tremplin. Et donc du coup, Skullbringer, c'est vraiment le jeu où on s'est dit, écoute, on y va à fond et on fignole au maximum. Et il faut que tout soit cool. Et c'est toujours, enfin, nous on... En termes de finition, de degré de finition, on a beaucoup pris en modèle les gens de chez Motion Twin parce que eux, ils savent finir un jeu en fait. Et c'est, enfin, finir.
Comment on finit un jeu correctement?
Enfin, finir, pas dans le sens finir, sortir un jeu, mais dans le sens fignoler, dans le sens apporter les finitions et faire la différence entre un jeu fini et un jeu très bien fini. Quitte à ce que le jeu, il soit pas, il est pas une pléthore de contenu. Et en fait, c'est ce que le travail de Motion Twin nous a appris, c'est que la qualité prime sur le contenu. Tu peux faire un jeu avec pas beaucoup de contenu, mais qui est très 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 bien fini. Mais par contre, faire un jeu avec plein de contenu qui est pas trop bien fini, c'est beaucoup plus préjudiciable et moins apprécié en fait. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est on voulait s'assurer de créer une bonne expérience avant de créer une grosse expérience. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps, en fait. Ben, les 2 ans qu'on a mis avant de lancer l'Early Access, on a quasiment passé 1 an juste pour s'assurer qu'on allait quelque part. Et ouais, c'était un gros boulot de polishing. Mais on en est content, on aime bien bosser comme ça. Là, on s'est trouvé un rythme de croisière et un sweet spot dans ce qu'on aime bien, dans ce qu'on aime bien faire.
De l'orfèvrerie.
Ouais, mais c'est ça, franchement, c'est passé 2 semaines juste à essayer de faire sauter un personnage, quoi. Mais il faut que le saut soit satisfaisant. Tu vois, c'est vraiment à la demi-seconde près.
Faut être content de le voir sauter comme ça.
Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Il faut que la moindre action, même l'action de sauter, soit satisfaisante.
J'ai une question. Pourquoi les concombres?
Parce que c'est pas bon.
Ceux qui joueront comprendront.
Ouais. Ouais, on met des concombres dans tous nos jeux vidéo. il y a une référence aux concombres dans tous nos jeux vidéo, et ça c'est juste à cause de moi, c'est parce que j'aime pas les concombres.
Ah, c'est un trauma perso, quoi.
Bah, c'est pas un trauma, parce que si on parle de trauma, les gens vont s'imaginer qu'il y a des problèmes avec la forme phallique du concombre et des trucs comme ça, tu vois. Donc, mais non, je trouve juste ça pas bon. Et j'ai pas de... Comment dire ? C'est la seule chose que j'aime pas manger, en fait. Et je suis pas compliqué d'un point de vue alimentaire, mais je n'aime pas les concombres. Et là où j'ai vraiment un problème avec les concombres, c'est qu'un concombre, tu le mets dans un sandwich, tu l'enlèves, ton sandwich, il a encore le goût du concombre.
Oui, c'est vrai, ça imprègne.
Voilà. Et moi, ça me met hors de moi. Je peux pas. Je peux pas. Et le paradoxe de ma vie, de toute ma vie, c'est que j'adore les cornichons et les pickles, qui sont des concombres.
Ouais, mais marinés.
Ouais. Le vinaigre, ça fait tout.
Voilà, ça change tout. Non, mais c'est clair. D'accord, non, je voulais juste comprendre, parce que ça m'a perturbé, ces items concombres. D'accord, très bien. Comment est-ce que tu vis, toi, la création de jeux en tant qu'indépendant ? Bon, déjà, toi, tu bosses pas de chez toi.
Non, en fait, c'est le mois que j'ai passé en slip chez moi avec François à faire Dead End. Ça m'a appris que il me fallait une coupure. C'est même il me faut un bureau juste parce que faut que mon cerveau il fasse le switch, en fait. Il faut que je me dise là, je suis au travail. Et en bossant de chez moi, j'arrive pas à me le dire. J'ai besoin de physiquement sortir de chez moi pour que mon cerveau se dise là, t'es au boulot. C'est difficile d'être à la maison tout le temps et je. Ouais. On est deux dans ce qu'on appelle Flying Hawk Games.
Ouais.
Mais on bosse pas à deux sur nos projets. Même Neurovoider à l'époque, même Dead End en fait. Dead End, on était François et moi, mais on s'est quand même fait épauler par deux musiciens. Sur Neurovoider, pareil. Bon, on était deux. Il y a un musicien. Dont on a utilisé sa musique, mais il n'a pas bossé spécifiquement dessus. On a pris de sa musique qui existait déjà. Donc lui, il n'a pas eu en fait d'implication dans le projet. Et là, sur Skullbringer, on bosse avec un compositeur sound designer finlandais, qui est Jonas Turner, qui est une personne qu'on admirait à la base, et qu'on admire toujours énormément, mais qu'on a la chance de bosser avec aujourd'hui.
Et comment ça s'est fait ?
On lui envoie un mail, et il nous a dit « Yeah, let's fucking do this !» En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, d'un point de vue game design, on se revendique d'une école qui est un petit peu proche des jeux Vlambeer. Donc le Vlambeer, c'est tout ce qui est Nuclear Throne, Ridiculous Fishing, et en fait c'est juste c'est jeu d'action débilo et nous on aime beaucoup ces trucs là et en fait si tu veux avec Florian on a commencé à faire des jeux vidéo en jouant à ces jeux parce qu'on avait tous les deux le même goût pour ces jeux là donc c'était Towerfall, c'était Nuclear Throne et en fait on s'est dit ben on a envie de faire des jeux dans cette veine là. Et il s'avère que Jonas Turner, c'est le sound designer résident des projets de chez Vlambeer. Et donc, quand on a commencé à faire Skullbringer, on s'est dit « Putain, mais ça serait quand même ouf quoi, qu'on bosse un jour avec Jonas Turner. » Donc on lui a envoyé un mail, on lui a montré le jeu, et puis on lui a dit « Ben, écoute, dis-nous ton budget, et puis on te dit si ça rentre dans le nôtre. » Et puis c'est rentré, et puis il a dit « Ben, allez, on fait ça. » Et puis on l'a fait.
Est-ce que c'est le projet de ta vie?
C'est pas le projet de ma vie, je pense pas. Parce que des projets, on en a plein qu'on aimerait faire.
Vous avez déjà des idées pour la suite?
Ouais, on a plein d'idées. Avant de faire Scotchbanger, on a commencé à réfléchir à d'autres projets. Pendant qu'on faisait Boo Greedy Kid, on a commencé à réfléchir à un autre projet qui était un FPS rétro un peu à la Wolfenstein qui se passait dans un univers cowboy alien et où la seule action que tu pouvais faire, c'était donner des coups de savate.
C'est pas mal.
Ouais. Et donc, tu sais, même pour dire bonjour à quelqu'un, il fallait que tu lui foutes un coup de savate dans la gueule. Ça nous faisait beaucoup rire, mais on l'a jamais fait parce que je sais plus pour quelle raison. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de jeux de ce style-là à l'époque. Il y a beaucoup de jeux rétro Wolfenstein qui étaient sortis à ce moment-là. Donc on s'est dit que c'était pas forcément le moment. Et puis ça nous faisait passer à la pseudo 3D et puis c'était quelque chose dans lequel on n'était pas forcément à l'aise.
Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans la conception de jeux vidéo un peu comme vous le faites?
Faire des game jams. Faire des game jams, faire plein de game jams. Les game jams, c'est la meilleure école. Je crois qu'il n'y a pas une seule personne... Enfin, si, maintenant, c'est différent. Mais je veux dire, à la base, il n'y avait pas une seule personne avec qui on a bossé ou avec qui on a fait des jeux qu'on n'a pas rencontré en game jam. Et nous, ça nous a appris énormément de choses sur nous-mêmes, sur comment faire des jeux, etc. Et je pense que ça t'apprend des choses vraiment essentielles que tu n'apprends pas dans un cursus scolaire. La coopération, ça t'apprend à connaître les gens et puis plein de choses. Et c'est surtout que même nous aujourd'hui, en fait, ce que je dis souvent, en fait, et je pense que des confrères ou consoeurs partagent cet avis, c'est que si aujourd'hui on recrute et qu'on reçoit deux CV sur la table, avec un CV de quelqu'un qui sort d'une grande école et qui n'a aucune réalisation, et de l'autre côté, quelqu'un qui n'a pas forcément fait d'école, mais qui a des réalisations et qui est curieux et autonome, et qui éventuellement a fait des game jams, eh ben on préférera prendre ce dernier profil plutôt que de quelqu'un qui sort de l'école. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui est curieux et indépendant rapidement, et pas quelqu'un qui a un gros CV, quoi.
Aucun regret de faire ce métier-là?
Non, aujourd'hui pas du tout. Très, très serein et très heureux, épanoui, on va dire. On va remettre l'église au centre du village, si c'est comme ça qu'on dit. C'est que nous, on se rend compte qu'on est quand même dans un contexte privilégié. Donc nous, on fait partie des privilégiés. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on ignore, quoi. On sait qu'il y a des gens qui galèrent de ouf. On sait qu'il y a des gens que le jeu vidéo a cassé. On sait qu'il y a des gens qui sont partis de l'industrie et qui n'ont aucune intention d'y revenir. Et ouais, c'est maintenant, j'ai envie de dire, c'est notre boulot de privilégié de pas oublier ces personnes-là et d'essayer de faire évoluer le domaine du jeu vidéo pour qu'il soit quand même plus accueillant, quoi. Mais ouais, c'est dur, c'est vraiment dur, quoi. Enfin, aujourd'hui on est dans un contexte favorable, ça veut pas dire que dans 2 ans on sera pas non plus dans un contexte qui soit similaire au lancement de Neurovoider, quoi. Ouais, c'est un ascenseur émotionnel, c'est horrible. C'est même là, sur le lancement de Scotchbanger qui s'est bien passé, le mois avant la sortie, c'était hyper hyper stressant pour plein de raisons, pour coordonner les équipes, l'incertitude, le travail que toi-même tu as, les pépins de dernière minute, c'est méga méga stressant et c'est un ascenseur émotionnel perpétuel, quoi. Et la question qui se pose, c'est est-ce que malgré le fait que ça se passe bien, est-ce que psychologiquement on arrivera à encaisser ça toute notre carrière, quoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire toute notre carrière? Ça, c'est une question.
Est-ce que ça t'intéresse pas du tout d'aller bosser dans une grosse boîte
Ah si, oui, moi ça me dérangerait pas. Ouais. Moi j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien avoir un rôle à jouer, tu vois. Je sais pas, moi c'est comment dire. J'aimerais bien gérer une équipe, par exemple. Parce que pas par ego, parce que je m'en fous complètement qu'il y ait mon nom sur un jeu ou quoi que ce soit. Et c'est pas pour me mettre en avant. Mais je trouve que c'est un peu. J'y retrouve. Enfin, je pense que j'y retrouverai un petit peu ce que je retrouvais dans l'enseignement, qui est que moi, je prends du plaisir à voir des gens s'élever, en fait. Et si je vois des gens, si j'arrive à faire en sorte que des gens puissent s'épanouir dans leur travail et que, quitte à ce que ça soit leur nom à eux qui soit mis en avant et pas le mien, eh ben, moi, ça me fera super plaisir. Et je sais que c'est pas forcément le discours que tout le monde peut avoir dans le jeu vidéo, mais ouais, moi, je pense que ça me plairait, je pense.
C'est chouette.
Donc ouais, je suis ouvert autant à aller bosser dans une grosse boîte. Après, j'ai jamais bossé dans une grosse boîte, donc ça me ferait déchanter. Donc j'en sais rien, je sais pas à quoi m'attendre. Mais je me dis que ouais, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, j'en sais rien. Si un jour la vie nous fait bifurquer et qu'on continue pas Flying Games pour x ou y raison, ben ouais, moi je pense que ça m'intéresserait en tout cas de tenter l'expérience. À partir du moment où on peut continuer de faire des jeux vidéo, nous on est content. Donc voilà. Donc ouais, je pense qu'au final c'est ça, juste pouvoir continuer à faire des jeux.
Ben merci beaucoup.
Merci à toi.
Allez, on arrête là. Je te libère.
Et je vous libère, vous aussi. Mais juste avant que vous partiez, déjà, merci d'avoir écouté cet épisode d'Indiscopie. J'espère revenir très vite avec un nouveau portrait. Et je vous laisse en description de cet épisode tous les liens pour vous procurer Scourgebringer. Alors, personnellement, j'ai craqué pour l'Early Access dès le mois de février, donc je ne peux que vous le conseiller du fond du cœur. Je vous mets aussi un lien vers une conférence de Thomas qu'il a donnée au Stunfest il y a 2 ans, il me semble, de mémoire. Une conférence sur la dépression des développeurs de jeux vidéo indépendants. C'est extrêmement intéressant et c'est crucial comme thématique. Donc voilà, vous pouvez trouver tout ça en descriptif de ce podcast. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle Indiscopie. Indiscopie.